Il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris, 8h à New York et à Port-au-Prince.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
La dernière partie de RFI Midi sur le continent américain, interview dans un instant avec Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime, avec qui on va revenir sur l'un des décrets que Donald Trump a signé dès son retour à la Maison Blanche.
This is actually an executive order designating the cartels and other organizations to be foreign terrorist organizations.
That's a big one.
Yes, sir.
People have wanted to do this for years.
Voilà un décret pour désigner les cartels, notamment mexicains, comme des organisations terroristes. Alors à quoi faut-il s'attendre? Quelles conséquences potentielles pour le Mexique et pour les États-Unis? On en parle dans quelques minutes. Donald Trump, ses décisions, son administration qui font encore et toujours la une de la presse américaine. On y reviendra avec Vincent Souriau. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. Et vous allez revenir sur ce crash d'avion en Dominique.
Les corps des quatre occupants du petit avion qui s'est écrasé dimanche ont été localisés hier. Il n'y a pas eu de miracle. L'hélicoptère de la sécurité civile venu de la Martinique a déjà permis de récupérer les dépouilles de deux d'entre eux. Reportage à suivre.
À tout à l'heure, mais d'abord, le journal international.
RFI Midi.
Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
L'émissaire de Donald Trump poursuit sa tournée au Proche-Orient.
Après Riyad, Steve Witkoff est arrivé hier en Israël. Une rencontre est prévue avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les habitants du nord de la bande de Gaza continuent de rentrer chez eux. Plus de 370 000 personnes ont regagné leur domicile ces dernières 48 heures, d'après un décompte effectué par l'ONU. Mais beaucoup d'entre eux ne retrouvent qu'un champ de ruines. Plus au nord, le cessez-le-feu avec le Liban reste très précaire. L'armée israélienne devait se retirer du pays dimanche dernier, mais le délai a été prolongé jusqu'au 18 février. Deux frappes israéliennes ont fait 24 blessés hier dans le sud du pays. Israël affirme avoir visé deux véhicules transportant des armes du Hezbollah, mais les accrochages avec des civils qui tentent de rentrer chez eux se multiplient. Des villages sont toujours sous occupation israélienne. D'autres localités sont transférées à l'armée libanaise. La situation est très tendue, comme l'explique Kamal Mohana. Il est président de l'ONG libanaise Amel.
C'est une sorte d'intifada qui s'est passée dans le sud, qui a poussé l'armée israélienne à se retirer de plusieurs villages. Là, ils se sont retirés de 6 villages hier et l'armée libanaise s'est répandue là-bas et les habitants, ils reviennent. Les gens insistent pour revenir chez eux, c'est leur droit. Ce qui fait des accrochages dans certains endroits et chaque jour, il y a soit des blessés, soit des morts. Chaque jour. Ce sont des civils. Si vous avez vu à la télé comment une femme, en ouvrant ses bras, et l'armée israélienne tire sur elle, devant elle, on voyait la poussière des balles. Elle ouvrait les bras et disait « je reste ici, Anna, je vais rentrer chez moi ». Et à Deysé, un char a écrasé une voiture là, avec les gens et les gens à Badan. Ce sont les villageois qui veulent retourner chez eux, et c'est leur droit.
Kamal Mohana, président de l'ONG libanaise Amel, interrogé par Oriane Verdier. Félix Tshisekedi ne participera pas au sommet avec Paul Kagame. Une annonce de Kinshasa alors que les présidents de la RDC et du Rwanda devaient se retrouver aujourd'hui pour évoquer la situation à Goma. Le M23 et l'armée rwandaise progressent dans la grande ville de l'Est. Les combats ont déjà fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés.
Aux États-Unis, Donald Trump poursuit sa croisade contre les personnes transgenres.
La Maison-Blanche a publié un décret qui met fin aux aides publiques pour les opérations de transition de genre des mineurs, chimiques comme chirurgicales. Le président américain promet de s'y opposer par toutes les voies légales possibles, Anne Verdaguer.
Oui, les mots de Donald Trump ne sont pas assez forts pour dénoncer ce qu'il appelle des mutilations sur un nombre grandissant d'enfants impressionnables qui regretteront vite leurs décisions horribles, selon lui. Une tendance dangereuse qui sera une tache sur notre histoire et qui doit prendre fin, poursuit-il. Le décret signé hier interdit au gouvernement fédéral de financer des établissements de santé qui pratiquent des procédures de transition de genre sur des mineurs. Si ce décret s'applique uniquement aux ministères et aux agences fédérales et notamment aux polices d'assurance santé type Medicare et Medicaid pour les plus démunis, la moitié des États américains a déjà prohibé les traitements pour les mineurs transgenres. Cela représente plus de 300 000 jeunes américains âgés de 13 à 17 ans. En seulement 8 jours depuis sa prise de fonction, le président américain a enchaîné les décisions à l'encontre de la communauté transgenre, niant leur existence administrative en ne reconnaissant que deux sexes à la naissance ou les empêchant de servir dans l'armée. Des groupes de défense ont fait connaître leur volonté de porter plainte.
Anne Verdaguet du service international d'RFI.
Et parmi les personnes présentes à l'investiture de Donald Trump, le français Bernard Arnault.
Le PDG du numéro 1 mondial du luxe apprécie la politique du nouveau président américain. Il critique en revanche le gouvernement français. LVMH a dévoilé ses résultats annuels hier soir. L'année 2024 a été marquée par un recul de ses ventes et une baisse de son bénéfice. Bernard Arnault en a profité pour critiquer le projet de budget. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour à tous.
Une mesure en particulier déplaît aux multimilliardaires, celle d'augmenter fortement les impôts sur les grandes entreprises.
Oui, plus 40% d'impôts sur les sociétés qui font plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Cette surtaxe proposée par le gouvernement doit encore passer l'étape très délicate du vote au Parlement et elle ne serait appliquée que pour un an. Mais LVMH, maison mère de Dior et de Louis Vuitton notamment, serait concernée directement. Alors son patron, Bernard Arnault, s'en est agacé publiquement lors de la présentation des résultats du groupe hier soir, vous le disiez.
À peine croyable. Donc on va taxer le Made in France.
Une menace à peine voilée aussi de la part du patron du luxe.
Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal.
En revanche, il encense les mesures prônées par le nouveau président américain.
Aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États. Et le président américain encourage ça.
Il faut dire que Bernard Arnault et Donald Trump se connaissent bien. Le patron d'LVMH était le seul Français présent dans le premier cercle des invités à l'investiture du président américain ce mois-ci. Et grâce à la proximité entre les deux hommes, le champagne, activité importante du groupe français du luxe, avait échappé aux sanctions américaines sur le vin lors du premier mandat de Donald Trump.
Justine Fontaine du service éco d'RFI. À l'échelle européenne, les 27 veulent rattraper leur retard dans la compétition mondiale face aux États-Unis et la Chine. Bruxelles dévoile aujourd'hui son plan de compétitivité. Ursula von der Leyen veut relancer le moteur de l'innovation. Choc de simplification administrative, baisse du coût de l'énergie. Autant de chantiers prévus pour aider les entreprises européennes face à la concurrence internationale.
En Italie, Giorgia Meloni et trois membres de son gouvernement font l'objet d'une enquête.
Une enquête ouverte par le parquet de Rome dans le cadre de l'expulsion du chef de la police judiciaire libyenne. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les membres de l'exécutif italien sont accusés d'avoir facilité sa libération et son renvoi à Tripoli. Anne Lenière, bonjour, vous êtes en direct de Rome.
Oui, bonjour.
La chef du gouvernement accuse les magistrats de politiser leurs fonctions.
Absolument. Dans son message vidéo annonçant qu'elle est visée par une enquête sur la remise en liberté du responsable de la police judiciaire libyenne, Osama Al-Masri Nashim, et sur son rapatriement à Tripoli par un avion des services secrets, Giorgia Meloni affirme que le procureur en chef du parquet de Rome, Francesco Lovoi, je cite, est l'homme qui a lancé le procès contre Matteo Salvini pour séquestration de migrants l'été 2019, procès qui a totalement échoué. Elle ajoute que l'avocat qui a porté plainte, Luigi Ligotti, ce qui a entraîné l'ouverture obligatoire de l'enquête, est un ancien politique de gauche, alors qu'il a été pendant 30 ans un militant de droite. En concluant son message par ces mots, « Je ne céderai pas au chantage », eh bien on peut dire que la première ministre déclare ouvertement la guerre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Quant à l'opposition, elle reproche à l'exécutif son manque total de transparence, d'autant que les ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui devaient s'expliquer aujourd'hui devant le Parlement sur le cas du commandant libyen, ont déclaré forfait.
Anne Lenière, en direct de Rome.
Et c'était le journal de Karine Pellicha, merci beaucoup.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'est l'un des nombreux décrets signés par Donald Trump. Le président américain a décidé, juste après son retour à la Maison-Blanche, de désigner certains cartels de la drogue comme des organisations terroristes. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'est-ce que ça pourrait changer? Et comment c'est perçu notamment au Mexique? On en parle avec Bertrand Monnet. Bonjour.
Bonjour.
spécialiste de l'économie du crime, titulaire de la chaire Management des risques criminels à l'EDEC Business School en France. Alors, on sait que certains décrets signés par Donald Trump sont avant tout des effets d'annonce, ils n'auront pas forcément de résultats concrets. Est-ce que celui-ci, concernant donc les cartels, pourrait, selon vous, véritablement être appliqué? Et si oui, qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement?
Alors oui, il peut être appliqué, parce que ça relève de la seule décision du président des États-Unis. Hein, c'est un executive order, c'est un décret. Ce que ça permettrait, ça permettrait aux États-Unis de frapper ces organisations à l'extérieur de leurs frontières, comme ça a été le cas sur d'autres groupes terroristes, notamment au Proche-Orient, en Afghanistan, au Pakistan, etc. Mais il y a deux problèmes majeurs, à mon avis, qui se posent. Le premier, c'est que moi, je passe beaucoup de temps avec certains clans d'un des grands cartels, le cartel de Sinaloa, et donc ces gens, je les connais, je n'ai aucune proximité avec eux, hein, mais je vois leur mentalité, et ce ne sont pas du tout des terroristes, ce sont des extrémistes, mais des extrémistes de l'argent, c'est-à-dire que c'est des mafias qui ne travaillent que pour l'argent, ils ne travaillent pas au nom d'une idéologie. Donc déjà, la volonté est un peu biaisée, l'objectif. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que aller frapper militairement ces organisations criminelles, on peut s'interroger sur les effets que ça aura, parce que il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être des bombardements, notamment par des drones. Et il y a déjà des drones américains, non pas militaires, mais des drones de l'agence antidrogue américaine qui survolent toutes les régions où les cartels sont présents pour observer, pour filmer, pour traquer. Mais une action strictement coercitive par des bombardements, quel résultat aura-t-elle sur des organisations qui sont très très bien implantées localement, qui ont disséminé toute la production de leur drogue, notamment de fentanyl, cette drogue qui tue plus de 100 000 personnes par an aux USA? L'effet sera sans doute très limité. L'autre possibilité serait de déployer des militaires américains sur place, mais enfin là on est vraiment dans l'ordre du fantasme total, parce que d'une part, je ne pense pas que ce serait faisable. Et ensuite, l'État mexicain est un État souverain qui, à mon avis, ne tolérera aucunement ce déploiement de forces étrangères sur son sol.
Alors, je voudrais effectivement qu'on entende Donald Trump à ce propos. Voici ce qu'il a dit lorsqu'il a signé ce décret.
Monsieur le Président, maintenant que les cartels sont désignés comme des organisations terroristes, pourriez-vous déployer des forces spéciales américaines au Mexique pour les rayer de la carte?
Ça pourrait arriver. On a déjà vu se produire des choses plus étranges que ça.
Stranger things have happened. La réponse assez floue de Donald Trump. Alors de son côté, le Mexique, la présidente mexicaine, notamment Claudia Sheinbaum, elle a défendu la souveraineté de son pays, son indépendance. Voilà, on peut comprendre effectivement que le Mexique soit hostile à toute intervention américaine sur son sol.
Bien entendu, sachant que Mme Sheinbaum, elle a, je pense, déployé une approche qui est, pour le coup, pragmatique et, à mon sens, qui donnera des résultats à l'avenir. C'est-à-dire que, contrairement à son prédécesseur, alors elle était quand même très alignée avec M. Obrador jusqu'à il y a quelques mois. Finalement, elle a fait évoluer sa stratégie. Elle veut non seulement lutter militairement, mais aussi faire en sorte que l'État de droit regagne du terrain là où les cartels sont présents. La vraie solution, elle est là. Parce qu'on voit bien, et l'État mexicain essaie depuis des années militairement de lutter contre les cartels. Quand vous allez dans le Sinaloa, notamment, le territoire du cartel éponyme, là où, qui est sans doute le plus puissant, vous voyez des patrouilles de l'armée dans les villes, un peu partout. Mais dans les zones de la Sierra, de la montagne où le cartel est présent, l'armée ne peut pas passer. Parce que ce sont des zones immenses qui sont tenues militairement par le cartel. Donc ça veut dire que l'action militaire, même avec des forces telles que celles déployées par l'État mexicain, qui sont tout à fait considérables, c'est des milliers et des milliers d'hommes, très bien armés, avec de l'armement américain notamment, qui disposent de moyens d'observation tels que ceux que les États-Unis pourraient déployer, on voit que ça ne marche pas.
Mais justement, est-ce que l'aide américaine, dans ce cas, ne serait finalement pas utile au Mexique?
Non, malheureusement, je le crains, parce qu'il faut bien comprendre la nature de ces organisations. C'est ce que nous disions tout à l'heure, ce n'est pas des terroristes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des organisations en nombre limité, qui sont déconnectées de la population, qui vont sortir de temps en temps et frapper pour aller se cacher. Ce n'est pas ça. Les cartels, ce sont des mafias qui ont une implication, une emprise, une empreinte territoriale à la fois très profondes et très larges, qui sont présents géographiquement sur des zones immenses, qui contrôlent et qui font vivre, malheureusement, c'est très regrettable, mais qui font vivre des centaines de milliers de personnes. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour protéger ces organisations encore plus face à des militaires et encore plus face à des gringos. Il ne faut pas oublier que les Américains dans ces régions tenues par le cartel font quand même l'objet d'une animosité très profonde de la part de la population. Donc, je ne vois vraiment pas comment cette action militaire, elle pourrait avoir, à mon avis, la moindre efficacité. Alors, peut-être que en surface, on va couper quelques têtes, entre guillemets, et des gens vont se faire arrêter, etc. Oui, mais les racines des cartels, elles sont avant tout économiques. Ce sont des organisations mafieuses qui, en vendant des centaines et des centaines de millions de dollars de drogue dans le monde entier, s'enrichissent exceptionnellement, malheureusement, mais font aussi par capillarité vivre une partie des populations de tous ces territoires qu'elles contrôlent. Et ce n'est pas l'action militaire qui va couper ce lien entre les cartels et la population. La seule solution, c'est celle que veut déployer Mme Sheinbaum, c'est renforcer le pouvoir de l'État et surtout, entre guillemets, purifier cette économie, remplacer ces narcodollars par de l'argent propre, créés par des entreprises qui travaillent sans vendre de la drogue, mais en vendant des produits et en produisant des produits parfaitement légaux. Mais ça, ça prend du temps. Ce n'est pas une stratégie militaire, c'est une stratégie économique qu'il faut déployer. Et on est loin des solutions un peu spéciales qu'évoquait Trump.
Sur l'aspect financier notamment, on a déjà un texte qui existe aux États-Unis, le Kingpin Act, qui doit agir sur les avoirs notamment des narcotrafiquants. Ce n'est pas suffisant?
Alors, c'était déjà une étape tout à fait essentielle, hein, bien entendu. Ça, c'est un vrai outil. Ça, c'est un outil utile, mais qui existe. Hein. Ce n'est pas la peine de déployer, encore une fois, d'avoir ces effets, à mon avis, qui sont des effets d'annonce. Effectivement, d'un point de vue non pas mexicain, mais d'un point de vue nord-américain, spécifiquement de la part des États-Unis, mais aussi du Canada, qui est très touché hein, par l'action des cartels, hein, avec le fentanyl, qui tue aussi des dizaines de milliers de Canadiens chaque année. Mais ces États-là, qui sont les plus touchés par les cartels, la façon qu'ils pourraient avoir d'agir, c'est effectivement sur le volet financier, c'est-à-dire essayer de priver ces cartels de l'usage de l'argent criminel qu'ils gagnent, notamment sur le territoire américain et canadien. Et pour ça, c'est la lutte anti-blanchiment. Il y a beaucoup d'outils hein, qui sont disponibles, qui sont mis en œuvre, mais malheureusement, ça ne suffit pas, parce que les cartels mexicains ne blanchissent pas seulement leur argent aux États-Unis. Aujourd'hui, ils utilisent beaucoup d'autres zones financières, d'autres territoires, notamment des territoires totalement opaques, des trous noirs de la finance que sont les paradis bancaires, notamment Dubaï, mais pas seulement, le Panama, beaucoup d'États caribéens comme les îles Vierges Britanniques, la Barbade, etc., et de plus en plus Hong Kong. Et là, on parle d'États, de systèmes financiers qui garantissent une opacité totale à qui possède un compte en banque localement. Et ces États-là sont utilisés comme d'énormes machines à laver par les cartels pour laver leur argent et le transformer en argent investi un peu partout, notamment au Mexique, une fois qu'il a été, entre guillemets, lavé. Et là, effectivement, les États-Unis ont un poids économique, politique, diplomatique suffisant, à mon sens, pour faire pression sur ces paradis bancaires, pour faire en sorte qu'ils mettent fin à cette opacité dont bénéficient les cartels. Et ça, croyez-moi, si vous touchez à l'argent lavé, hein, à l'argent blanchi, si vous touchez à cet argent blanchi pour un narco, ça leur fait très très mal, beaucoup plus mal qu'un drone.
Et pour finir rapidement, Bertrand Monnet, est-ce que du coup ce décret de Donald Trump ne pourrait pas avoir finalement des effets négatifs, y compris pour les États-Unis, puisque les cartels donc sont installés aussi probablement aux États-Unis?
Alors malheureusement, encore une fois, les centaines, depuis 40 ans maintenant, c'est des centaines de milliards de dollars que les narcos ont blanchi et finalement investi dans l'économie légale, notamment aux États-Unis, mais surtout au Mexique. Et donc, de fait, les entreprises qu'ils possèdent via beaucoup d'écrans, elles font partie du biotope légal. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, lutter contre les cartels, finalement, c'est ralentir une forme de croissance économique. Mais je pense qu'on ne peut pas accepter ça. Et que même si ça a un coût pour l'économie légale, parce qu'elle a été infiltrée par ces narcodollars, ce coût, il faut le consentir. Et il faut faire en sorte que cette économie légale, petit à petit, elle soit sevrée de cet argent sale injecté par les cartels après blanchiment. Mais le nœud du problème, vraiment, c'est la lutte anti-blanchiment, beaucoup plus que le déploiement de forces spéciales ou le bombardement par des drones, que de toute façon, Mme Sheinbaum, la présidente élue du Mexique, refusera de façon certaine.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime, titulaire de la chaire Management des risques criminels à l'EDEC Business School en France. Merci beaucoup pour votre expertise. Les cartels, donc, c'est l'un des dossiers chauds hein, mis en avant par la Maison Blanche. Sauf que Donald Trump va dans tous les sens, puisqu'il a signé des dizaines de décrets depuis son retour au pouvoir. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour.
Et son administration, elle aussi, veut aller très vite.
Premier acte du ministère de l'Intérieur, c'est une info du New York Times, la suspension du TPS pour les Vénézuéliens. Le TPS, ou statut de protection temporaire, c'est un dispositif à visée humanitaire très utilisé par Joe Biden, système qui date des années 1990, offert à certains ressortissants étrangers qui sont déjà présents sur le sol américain et qui sont dans l'incapacité de rentrer chez eux en raison de la situation sécuritaire dans leur pays d'origine. L'idée, c'est que si vous bénéficiez de ce TPS, vous avez le droit de résider et de travailler aux États-Unis pour une durée de 18 mois renouvelable. Vous êtes aussi à l'abri des opérations de la police aux frontières, puisque même si vous n'avez pas la nationalité américaine, vous résidez légalement aux États-Unis.
Et ce système s'appliquait jusqu'ici aux citoyens d'une quinzaine de pays.
Oui, par exemple aux Afghans, aux Haïtiens, aux Camerounais, aux Libanais, aux Syriens, aux Ukrainiens et donc aux Vénézuéliens. Et on parle d'un nombre très important de bénéficiaires, puisque si l'on s'arrête juste sur le Venezuela, il y avait au dernier relevé il y a 15 jours 600 000 personnes éligibles sur le sol américain. Et pour eux, Joe Biden avait pris soin à la toute fin de son mandat de prolonger ce TPS jusqu'en octobre 2026. Eh bien ça, c'est terminé. La nouvelle ministre de l'Intérieur, Christine Noem, vient de révoquer cette extension, ce qui laisse potentiellement sur le carreau ces centaines de milliers de Vénézuéliens qui habitent et qui ont encore une activité professionnelle aux États-Unis et qui pourraient donc se retrouver dans l'illégalité d'ici quelques semaines, donc désormais susceptibles d'être arrêtés à tout moment et reconduits dans leur pays dans le cadre de cette opération anti-migrants décrétée par Donald Trump le 20 janvier.
Allez, il est 14h21 à Paris, 8h21 à Washington. Dans 2 heures, Robert Kennedy Jr. sera devant le Sénat pour son audience de confirmation.
Oui, les sénateurs américains, comme à leur habitude, vont le mettre sur le grill. Robert Kennedy Jr., Donald Trump veut en faire son ministre de la Santé. C'est le neveu de l'ancien président démocrate John Fitzgerald Kennedy. C'est aussi un avocat et un militant anti-vax qui a propagé de fausses rumeurs sur les questions sanitaires pendant des années et qui vient de se faire taper sur la tête par sa cousine, la propre fille de JFK, étiquetée démocrate, Caroline Kennedy.
Avant même qu'il ne soit nommé à ce poste, son dénigrement constant de notre système de santé, les demi-vérités conspirationnistes qu'il a dites au sujet des vaccins, notamment en rapport avec l'épidémie mortelle de rougeole de 2019, ont coûté des vies. Superviser la Food and Drug Administration, les centres Medicare, des agences chargées de protéger les plus vulnérables d'entre nous, tout cela est une énorme responsabilité. Et Bobby n'est pas qualifié pour l'assumer.
Donc, devant le Sénat, Robert Kennedy va devoir répondre à des questions assez pimentées. Prenons, par exemple, le calcul du Washington Post, qui a compulsé plus de 400 entretiens et discours donnés en public par Robert Kennedy Jr. depuis 2020. À plus de 35 reprises, il a établi un lien entre les vaccins et l'autisme, contredisant toute la littérature scientifique. Et il n'a pas arrêté de critiquer le principe même de la vaccination, qui a, selon lui, empoisonné une génération entière d'enfants américains. Il a même créé, pour appuyer son propos, un lobby anti-vaccin, le Comité de défense de la santé des enfants. Mais nomination oblige, il se défend depuis quelques semaines de toute opinion définitive sur cette question vaccinale. Si je suis nommé, dit-il, je fournirai aux Américains en toute transparence un accès total aux données scientifiques afin qu'ils puissent faire des choix éclairés pour eux et pour leur famille.
RFI Midi, Cap Haïtien. 100.5 FM.
Et puis Haïti, pour terminer, Vincent, où là encore, on constate les conséquences directes des premières décisions prises par l'administration Trump.
Oui, votre invité, le docteur Eric D'Ortenzio, en parlait à 13h15. Clotilde, catastrophe en Haïti après la suspension du programme anti-sida des États-Unis, le plan d'urgence américain contre le sida déployé dans plus d'une cinquantaine de pays. Reportage à lire dans le Nouvelliste, le grand quotidien de Port-au-Prince, auprès des patients de 2 hôpitaux de la capitale haïtienne. On y lit que si cette décision est maintenue au-delà de 90 jours. Dès le mois de septembre 2025, au moment de valider le budget, le ministère haïtien de la Santé publique sera en très grande difficulté compte tenu du poids que représente l'aide externe dans la lutte contre le VIH en Haïti et que des opérations de dépistage ont déjà été mises à l'arrêt, en particulier à la frontière entre Haïti et la République dominicaine.
Cessation de toutes les activités en cours et renvoi du personnel en raison de la suspension du financement.
Oui, parole dans ce même article à l'organisation Cérovie présente dans les 10 départements d'Haïti. Cérovie Monrovie a reçu elle aussi l'ordre de tout arrêter alors qu'elle a 9000 patients sous traitement. Le secrétaire général de l'Association médicale haïtienne rappelle que l'aide américaine représentait jusqu'ici 90% de l'aide externe en matière de santé et qu'en l'absence de réaction immédiate des autorités haïtiennes, une catastrophe sanitaire leur pend au nez.
Merci beaucoup Vincent Souriau pour cette revue de presse.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer, et il n'y a pas eu de miracle. Les cours des quatre occupants du petit avion qui s'est écrasé en Dominique ont été localisés hier, non loin de l'épave de l'appareil. Bertrand Ferrand, pardon, j'ai oublié votre nom.
Benoît.
Benoît Ferrand, excusez-moi.
Je vous en prie. Venu de la Martinique voisine, c'est de là qu'avait décollé le petit avion qui s'est écrasé en Dominique. Venu de la Martinique, donc, l'hélicoptère de la sécurité civile a déjà permis de récupérer les dépouilles de deux des quatre victimes. Reportage Pierre-Yves Honoré.
C'est donc dans l'après-midi que les deux pompiers spécialisés dans les interventions en milieu périlleux ont réussi à récupérer les deux premières victimes de ce dramatique accident d'avion. Une intervention particulièrement difficile à cause de la topographie du terrain. Le petit avion s'est carrément encastré dans une falaise à la verticale. Le lieutenant Kézia Larcher.
C'est vrai qu'on avait un terrain qui était extrêmement pentu, une pente très sévère, quasiment à la verticale, où il n'y avait pas de possibilité de se stabiliser sur le sol, ni de se sécuriser avec nos techniques, parce qu'à côté, il y avait une végétation qui était très friable.
Pas moyen d'accéder à la zone par voie terrestre. C'est donc à bord de l'hélicoptère de l'aviation civile qu'ils ont réussi à élutrier les deux victimes, la juge en chef Jarry Smell.
On a fait une première rotation avec une première reconnaissance, et ensuite nous sommes descendus, une fois que c'était possible, une fois qu'on a eu les accords de la hiérarchie, on a pu descendre récupérer les victimes.
Pour l'instant, les dépouilles sont donc placées sous le contrôle des autorités de l'île de la Dominique. Aujourd'hui, l'équipage est en attente de leur autorisation. Il espère retourner de nouveau sur place, récupérer les deux dernières victimes.
Pierre-Yves Honoré de la première Martinique, direction la Guadeloupe, avec un bilan encourageant pour la première année d'activité dans le département de l'Association nationale Phytovictimes. 37 dossiers de personnes souffrant de maladies liées aux pesticides, 37 dossiers étudiés, 13 déjà éligibles à une indemnisation, 13 cancers de la prostate. Mais le travail ne fait que commencer. Écoutez Antoine Lambert, président de Phytovictimes. Il est au micro de Rudy Alexis.
On ne change pas de stratégie, mais on essaye d'aller toujours plus vers les victimes, là où elles se trouvent. Donc, les médecins peuvent faire partie des cibles. Enfin, de toute façon, les victimes passent forcément chez un médecin un jour ou l'autre. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Il n'y a pas de bon et de mauvais partenaires. L'intégralité des gens sur le territoire, qui travaillent sur le territoire, peuvent être des partenaires. L'important, c'est d'arriver à toucher la victime là où elle se trouve. Donc, la CGT continue à essayer de nous emmener des victimes. On a rencontré un certain nombre de professeurs en médecine dans les services concernés, donc neurologie, hémato probablement, et en urologie, puisque les victimes leur passent entre les mains. Maintenant, ce ne sera que des victimes qui sont actuellement en soins. Il ne faut pas oublier celles qui seraient plus âgées, qui seraient déjà passées dans les soins. Donc, on ne se privera d'aucune piste pour aller chercher des victimes là où elles se trouvent.
Bon après-midi, Clotilde.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Bon après-midi à vous. 13h27 en temps universel et on arrive à la fin de ce RFI midi. Un peu de musique pour terminer avec Israel Vibration, Wake Up, extrait de leur prochain album.
Another day has come, yesterday is gone, so we keep going on, wake up, wake up, go wash your face. So you can see more clearly what a gwan in a the place. Wake up, wake up. So much things to do in order to make it better. That is up for us to do. Oh yeah, now. If we go, meanwhile the farmer man have his handful of seeds to sow. Can you see? Look around you. Do you see what is taking place? So much destruction, and that's all it takes to lose your space. Instead of fussing and fighting, cause of conscious reasoning, biological called philosophy, humanitarian intelligence will be your defense against all intruders that try to break through your confidence.
Voilà, Israel Vibration, un extrait de leur prochain album. J'en profite pour remercier Yann Eligouin à la réalisation aujourd'hui, Emmanuel Klotz à la rédaction en chef et puis l'aide de toute la rédaction et en particulier Dan Kantner. Voilà pour ce RFI Midi.
Yesterday is gone, so we keep going on. Wake up, wake up. Go wash your face so you can see more clearly.